Que le Seigneur soit loué et remercié pour une si belle parole que nous avons déjà entendue et pour les merveilleuses pensées qui ont été exprimées. Nous pouvons dire devant la face de Dieu que nous avons entendu en ces derniers jours la parole toute puissante de notre Dieu. Non seulement la lettre, mais révélée par le Saint-Esprit. Dieu n'a pas seulement parlé en parabole, Dieu a parlé librement et ouvertement avec nous et à nous. Comme il a parlé autrefois aux prophètes et aussi par eux, il nous a parlé et veut aussi parler par nous. Nous vivons en effet une époque particulière à tout égard et nous devons prendre notre place dans le royaume de Dieu et ne rien laisser nous éloigner de ce que Dieu a prévu avec nous, pour nous, à comme intention avec nous. Il faut peut-être être quelque part pour apprendre ensuite à apprécier à nouveau ce que Dieu nous a donné par grâce. Frère Schmitt était l'un de ceux qui ont dit « Amen » et j'insiste volontairement sur ce point. En fait, jeudi dernier, nous voulions, tous les trois, frère Rousse, frère Schmitt et moi, participer à un grand congrès à Düsseldorf où un président mondial du plein évangile devait prendre la parole. Et frère Rousse a eu un empêchement et nous y sommes allés tous les deux. Et si nous n'avons rien emporté à la maison de toutes les histoires que nous avons entendues, il n'a même pas lu la parole de Dieu, pas une ligne, pas un verset. Mais même si nous avons oublié toutes les histoires que nous avons entendues, nous avons emporté quelque chose. Une profonde et nouvelle reconnaissance envers Dieu pour ce qui nous a été accordé par grâce. Je ne peux pas être comme ça. Je pense que frère Schmitt a probablement essuyé ses larmes de gratitude, de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Nous ne sommes pas de réputation ni de nom, et le peu que nous avions a encore été anéanti, de sorte que nous nous tenons simplement là, comme Dieu veut que nous soyons, afin que tout honneur et toute gloire lui soit réellement accordé par la grâce seule. Dieu a parlé, et Dieu continue à parler, il a agi et il continue d'agir, il a sauvé et il continue de sauver, il a guéri et il continue à guérir, et nous pouvons dire qu'il a baptisé d'esprit et de feu et il continue à le faire. Personne n'a besoin d'en douter, car on nous a souligné que deux fois de suite, il est écrit « Et toi, tu demeures. » Et la deuxième fois, c'est écrit « Et toi, tu demeures le même. » C'est ce qui a été lu. Il ne demeure pas seulement, mais il demeure le même. Tu restes le même. Psaume 102, versets 27 et 28, non seulement il reste, mais il reste le même. Et c'est pourquoi nous pouvons être pleinement confiants qu'il fera de même, qu'il fera aussi la même chose. Ces jours-ci, nous ne prêcherons pas. Nous nous résumerons les, vous savez, les Saintes Écritures. Nous résumerons les Saintes Écritures avec l'aide de Dieu. Nous écoutons les prédications traduites de Frère Branham et les lisons aussi sous forme de brochures, de sorte que nous ne sommes pas ignorants de, des choses que Dieu a faites et continue de faire. Dans l'un des deux dernières prédications qui vont bientôt sortir, sur bande et sur cassette, j'ai remarqué une phrase que Frère Branham il mentionne. Il dit que nous aimerions parfois être aussi innocents que le petit enfant qu'il a pris dans ses bras pour le bénir et le consacrer à Dieu. Et puis il dit soudain, nous sommes en effet encore plus innocents que l'enfant, que le nourrisson. Car ce nourrisson, même s'il a 6 semaines, il est né dans le péché. Et il dit, nous qui avons reçu la grâce par Dieu, sommes plus innocents que cet enfant que je tiens ici dans mes bras. Et cet enfant n'a pas encore proféré de mensonge, n'a jamais fait de mal à personne, n'a pas encore fait un pas sur terre, n'a pas encore prononcé une seule phrase. Et nous, qui sommes rachetés par le sang de l'agneau, nous sommes plus innocents qu'un tel enfant, qu'un tel nourrisson. Nous sommes pardonnés pour toujours, reçu la grâce de Dieu pour toujours. Et c'est aussi le verset que nous avons tous lu. Hébreux 1, verset 3, la fin du verset, il s'est assis à la droite. Donc, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs du ciel. Il a accompli la purification des péchés, et cela une fois pour toutes, pour toi et pour moi. C'est une rédemption parfaite et éternelle qui nous a été accordée. Un autre verset qui a retenu mon attention est celui-ci. Que tout lui rendra hommage, tout l'adorera. Ici au verset 10, Hébreux 1, verset 10. Et encore au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Cela m'a fait penser à Apocalypse 4, juste avant l'ouverture des sceaux. Il nous est dit ici dans Apocalypse chapitre 4, peut-être à partir du verset 9. Et chaque fois que les quatre êtres vivants offriront des louanges, des honneurs et des remerciements à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit éternellement. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit éternellement et ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ici, la louange, l'honneur et la gloire et l'adoration ont été offerts à celui qui a créé toutes toutes choses et les a faites selon sa volonté. Tu es digne, le verset 11, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir, Apocalypse 4, verset 11, la gloire et l'honneur et la puissance, car nous savons que cela sera répété plus tard au chapitre 5. La question « Qui est digne ?» est posée et ensuite la réponse est donnée. Dans le verset 9, il est dit, Apocalypse 5, verset 9, « Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant « Tu es digne !» de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront comme rois sur la terre. Le verset 10. Nous devons comprendre ce soir et pour toujours que ce que Dieu, ce que dit la parole de Dieu est vrai. Et nous ne devons pas la laisser passer comme ça devant nous, mais nous devons la laisser nous pénétrer, car pour la plupart, nous laissons passer la parole de Dieu devant nous, mais nous ne la laissons pas nous pénétrer réellement au point qu'elle devienne une réalité. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Hébreux 1, verset 3, tu as accompli la purification de nos péchés. Tu nous as rachetés. Nous sommes ta propriété. Ce sont des faits divins. Vous savez, même sur terre, la certitude est quelque chose de terrible. Elle peut nous détruire complètement de l'intérieur. Mais la certitude peut édifier intérieurement, nous édifier intérieurement et nous amener là où nous devons être, dans la position voulue de Dieu. Et il est écrit ici que son esprit, c'est son esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 15 et 16. Et si est question ici du terme « tu es digne de prendre le livre », c'est qu'il y a eu des hommes, hein, qui ont été trouvés dignes par Dieu d'entendre aussi et de connaître, de reconnaître ce qui était scellé dans ce livre, car c'est à eux qu'il était destiné. Et c'est par grâce que nous pouvons nous compter parmi ces personnes qui ont été jugées dignes d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises, d'entendre ce que Dieu a à dire par sa parole et même ce qu'il a révélé. J'ai moi-même une parole du prophète Ésaïe sur le cœur. Vous savez que le prophète Ésaïe était le prophète de l'histoire du salut de l'Ancien Testament. Il a décrit la naissance de Jésus-Christ comme Emmanuel, un fils. Le Fils nous est né, l'enfant nous est donné. Et il a décrit qui il est. Il a décrit, voici une voix dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Il a même décrit le royaume de 1000 ans à la fin de ses chapitres. Un homme qui a résumé 66 66 livres guidés, conduits par le Saint-Esprit. Et ici, au chapitre 44 d'Ésaïe, il est dit ce qui suit. Verset 1, Ésaïe 44, verset 1. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Toi, Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, qui t'a formé dès le ventre de ta mère. Arrêtons-nous un instant à cette parole. Il y est question d'élection ici, mais aussi du fait que ce qui est dit ici, ce que nous lisons par la suite, était déjà dans le plan de Dieu dès le ventre de la mère. Dès le ventre de la mère. Nous savons tous qu'un prophète Jérémie, ou qu'il lui est dit qu'il était destiné dès le ventre de sa mère, mais savez-vous que ça nous le savons tous concernant Jérémie, mais savez-vous que tous les rachetés ont part à ce que Dieu a dit autrefois par les prophètes? Et ils n'étaient pas les seuls, donc les prophètes n'étaient pas les seuls à être destinés par Dieu dès le ventre de leur mère, mais aussi toi et moi. Et ils étaient destinés avant la fondation du monde à être un porte-parole de Dieu. Et toi et moi, avant la fondation du monde, nous étions aussi destinés à entendre, à écouter ce que Dieu disait à travers eux. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Il est dit ici, dans le prophète Jérémie, au chapitre 1, au verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Avant même de te former dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant que tu ne voies la lumière du monde, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les peuples. Paul a écrit aux Galates, il dit, quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère de révéler son fils en moi. Galates 1, 15 et 16. Comprenons donc ce soir, frères et sœurs, que l'élection a eu lieu avant même la fondation du monde. Mais que Dieu a consacré les siens dès le ventre de leur mère et les a destinés à être sa possession. Avant même que je te forme dans le ventre, dans le sein de ta mère. Oui, même notre origine terrestre dans ce monde avait été déterminée par Dieu. Avant même que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, et la relise Jérémie 1, verset 5. La plupart des croyants ne croient pas à l'élection. Et cela s'explique très facilement, car la plupart des croyants ne sont pas élus. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas croire à l'élection, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les élus croient en l'élection. Et ceux qui sont consacrés par Dieu croient qu'ils sont consacrés à Dieu. Ils le croient, ils le savent. Et ceux qui ont été rachetés par Dieu croient à la rédemption. Et les fils et les filles de Dieu croient ce que le Seigneur leur a dit. Avant même de te former, il relit Jérémie 1, verset 5. Dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Permettez-moi d'insister encore une fois. De même que Dieu a choisi d'avance les prophètes, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, que Dieu a parlé autrefois de diverses manières par les prophètes. De même, il a choisi un peuple qui écoutera la parole prophétique. Un peuple auquel la même parole sera révélée par le même esprit, par grâce. Vous savez que nous n'avons pas besoin d'être des prophètes, mais seulement des hommes qui reçoivent la parole prophétique et la voix révélée pour eux par l'Esprit Saint. Ainsi, l'élection et la prédestination et être destiné, cela vient de Dieu. Il lit la suite du verset 5 de Jérémie 1. Je t'ai choisi avant que tu ne voies la lumière du monde. Je t'ai consacré. N'est-ce pas quelque chose de glorieux? Peux-tu croire de tout ton cœur ce soir que Dieu ne pense pas au prophète, t'as déjà destiné à être sa propriété alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Toi, que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Que Dieu t'a destiné à lui et t'a consacré pour être sa propriété. Vous savez, cela me fait penser à frère Branham. On lui a demandé, après son témoignage, qu'il avait eu des visions et des révélations depuis qu'il était capable de penser à l'âge de 2 ou 3 ans. Et la question était, as-tu déjà eu ces choses avant ta conversion? C'était la question. Et il a répondu, oui, je les ai reçus au berceau. Qu'est-ce que c'était? Consacré par Dieu pour être prophète, mis à part dès le ventre de sa mère, désigné par Dieu. Et cela s'applique aussi bien à nous qu'aux prophètes que Dieu a désignés. Car nous sommes destinés, prédestinés à entendre la parole prophétique. Et celui qui reçoit un prophète reçoit la récompense, en qualité de prophète, reçoit la récompense d'un prophète. Il est placé dans la même position devant Dieu. Et ensuite, dans cette position devant Dieu, il est ensuite écrit, la fin du verset 5 de Jérémie 1, je t'ai établi prophète pour les peuples, pour les nations. Oui, pas seulement pour le peuple d'Israël, car il s'agissait bien de prophètes hébreux. Il n'y en a pas eu d'autres à l'exception de Balaam. Et c'est sur lui que nous pouvons parler. Revenons maintenant à cette parole d'Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 1. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, et toi, Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, qui t'a formé dès le ventre de ta mère. Ton soutien, ne crains pas, mon serviteur Jacob, et toi, Israël, bien-aimé, que j'ai choisi. Ainsi, ici ce n'est pas seulement Jacob en tant qu'individu qui a été interpellé. Ici, Mais le peuple tout entier d'Israël est ici interpellé par Dieu, et ce, par la désignation, et toi, mon Israël bien-aimé, que j'ai choisi. Nous voyons ici l'élection. Il y avait beaucoup de nations, mais Dieu avait pris un seul homme du fleuve Euphrate, des extrémités de la terre, d'Ur en Chaldée, et il lui a parlé, s'est révélé à lui, lui a fait des promesses et a conclu une alliance avec lui. C'était le fondement de sa foi et la base de sa communion avec Dieu. Et tous les élus sont sur le même fondement, se tiennent sur le même fondement. Ils entendent, ils écoutent et croient les promesses de Dieu. C'est avec eux que Dieu a conclu une alliance. C'est en eux que la parole devient une réalité et que les promesses, par la grâce de Dieu, sont confirmées comme pour Abraham et sa semence. Et toi, mon Israël bien-aimé, que j'ai choisi, il relit Ésaïe 44, verset 1, la fin du verset 1. Bien sûr que si nous regardions avec des yeux humains, nous aurions pu voir beaucoup de choses qui étaient humaines. Mais gardons une chose à l'esprit. Le divin en toi et en moi ne provient de toi ni de moi. Le divin vient de Dieu et est mis en nous et rendu vivant par sa parole et son esprit. Et si nous pouvons une fois comprendre cela, que tous ces prophètes, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, tous ces hommes de Dieu, que ce soit Ésaïe, Jérémie, qui qu'ils soient, ils sont restés des hommes, mais ils portaient quelque chose de divin dans leur cœur. Quelque chose qui leur est venu du ciel les a attirés vers la gloire. Et j'ose dire qu'il en va de même pour toi et pour moi. Dieu a mis quelque chose de divin dans notre cœur et dans notre vie. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires, mais d'enfants d'hommes, le Seigneur a fait des enfants de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui croient en son nom. Comme le dit l'Écriture, ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, alors nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2. Et là, tout nous échappe. Nous pourrions alors incliner notre visage vers la poussière et ne plus jamais lever les yeux si nous voulions y réfléchir humainement. Mais raisonnons humainement sur les choses humaines et raisonnons divinement sur les choses divines. Et nous n'avons pas affaire ici à la parole des hommes, mais à la parole de Dieu, et accordons une foi, et nous voulons accorder une foi totale à la parole de Dieu et dire oui comme Abraham l'a fait. Vous savez que chez Abraham, la chose était humainement impensable, impossible, irréalisable. Mais il a cru contre toute espérance et est devenu de plus en plus fort dans la foi. Qu'est-ce que c'était? Quelque chose de divin était tombé dans son cœur. Et ce divin a triomphé dans sa vie, au-delà de tous les arguments humains, au-delà de tout ce que la raison pourrait produire. Le divin a triomphé dans son cœur. Et la même chose doit se produire en toi et en moi. Ô Israël, toi que j'ai choisi, Ésaïe 44, verset 1b. Et voici une glorieuse promesse. Au verset 3 maintenant, Ésaïe 44, verset 3. Car comme je répands les eaux sur la terre desséchée et les ruissellements sur le sol aride, ainsi je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Ça, c'est une parole glorieuse. Et si nous y croyons de tout notre cœur ce soir, nous pourrons aussi l'expérimenter. Nous devons simplement en arriver à ne plus réfléchir humainement à la parole de Dieu. Car l'ennemi peut venir avec 101 pensées, même pendant la proclamation de la parole de Dieu, pendant la prédication, il peut venir avec des centaines de pensées et dresser un énorme obstacle devant toi et moi et nous priver de la bénédiction pendant la proclamation de la glorieuse parole de Dieu parce que nous y réfléchissons humainement. Mais cela ne lui réussira pas. Résistons à l'ennemi comme il est écrit. Faisons abstraction de nous-mêmes et de tous les autres. Écartons à droite et à gauche les paroles et les pensées des hommes et appuyons-nous entièrement, seulement sur la parole du Seigneur. Cette promesse est précédée de la fin du verset 2 d'Ésaïe 44. Mon Israël, bien-aimé, que j'ai choisi. Car comme je répands les eaux sur la terre desséchée et les ruisseaux sur le sol aride, ainsi je répandrai mon esprit sur ta postérité, sur ta semence. Oh, comme cela fait du bien. Comme il est agréable de voir la pluie tomber après une longue période de sécheresse. Et savez-vous qu'il y a des gens dans le naturel qui n'aiment pas du tout la pluie. Et quand je vois un homme avec un parapluie, je pense que c'est un pantin. S'il pleut, mais qu'il pleuve. Mais nous avons déjà notre attitude terrestre sur terre, n'est-ce pas? Et il y a aussi des gens dans le domaine spirituel qui n'aiment pas la pluie de bénédiction. Et ils veulent alors se mettre sous un parapluie. Si nous voulons être sous un parapluie, c'est sous le parapluie, comme c'est écrit dans le psaume, donc à l'abri du Très-Haut et sous l'ombre du Tout-Puissant. Cela nous suffit alors. Nous n'avons pas besoin de tout le reste. C'est exactement ce que dit ici le Seigneur. Comme il fait tomber la pluie sur la terre aride et les torrents d'eau sur le sol aride. Ainsi, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes rejetons pas seulement un esprit ou une bénédiction quelconque, mais Dieu dit, mon esprit est ma bénédiction. Ah, si le Seigneur mettait dans ton cœur et dans le mien, ce soir, un désir aussi profond, et si nous pouvions dire, Seigneur, je crois que tu m'as choisi, que tu m'as élu, je crois que tu m'as aimé et appelé à sortir. Je crois que tu m'as appelé à sortir par amour. Je crois que tu m'as choisi, élu et que je t'appartiens. Je crois que tu m'as consacré à toi. Je crois que tu as payé le prix à Golgotha et que je peux faire partie de ta descendance, de tes rejetons, de tes enfants. Car c'est bien ce qui est écrit. Après avoir fait sortir beaucoup de fils, il est entré dans la gloire. Hébreux 2, verset 10. Après avoir conduit à la gloire beaucoup de fils, il a été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Tous les fils et toutes les filles de Dieu ont été rachetés à Golgotha et l'ennemi a perdu son droit sur eux. Hébreux 2, verset 10. Car Ésaïe 44, verset 3. Car comme je répands les eaux sur la terre desséchée, assoiffée, et des ruisseaux et des torrents d'eau sur le sol aride, ainsi je répandrai mon esprit sur ta postérité, sur ta semence, et ma bénédiction sur tes rejetons. Là où l'Esprit de Dieu peut descendre, peut se répandre, là, la bénédiction de Dieu vient aussi avec. Pensons à l'effusion, le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Et si frère Branham n'a pas souligné autre chose, il a clairement indiqué que le Seigneur déversera encore une fois son esprit. Oh, que cela pourrait être aujourd'hui au milieu de nous, dans ton cœur et dans le mien. Si Dieu dit ici, car comme je répands les eaux sur la terre assoiffée, sur la terre assoiffée. Ici, le mot répandre est utilisé. Et quand je lis concernant la Pentecôte, alors nous lisons, il est parlé de l'effusion du Saint-Esprit. Nous lisons la pluie de l'avant et de l'arrière saison. Car comme je répands les eaux sur la terre assoiffée. Vous savez que quand quelque chose est répandu, c'est un peu plus puissant que lorsqu'on voit seulement des gouttes descendre. Le déversement, l'effusion, je fais déjà à partir de toute une plénitude. Quand on parle de répandre, ça se fait à partir d'une plénitude. Et c'est justement ce que Dieu veut souligner ici. Et lorsqu'il est écrit de son abondance, de sa plénitude, c'est écrit dans Jean, nous avons reçu grâce sur grâce. Alors si c'est écrit comme ça dans Jean, alors nous savons que c'est vrai. Mais nous devons être éveillés et ouvrir grand notre bouche et notre cœur afin que Dieu puisse les remplir. Quand il dit ici, car comme je répandrai. Donc, quand il dit je veux répandre, je répandrai. Oui, s'il veut, alors nous devons aussi vouloir. I will. Et dire, Seigneur, tu veux et je veux que cela m'arrive maintenant. C'est la volonté de Dieu. Que l'Esprit soit répandu sur ceux qui ont reçu en eux la semence de la parole de Dieu. Nous le lisons ici très clairement. Ainsi, je répandrai mon esprit sur ta postérité, sur ta semence. La deuxième partie d'Ésaïe 44 est ma bénédiction sur tes rejetons. Comme c'est merveilleux. Vous pouvez continuer à lire comment la comparaison est faite. Là où il y a des cours d'eau, des torrents d'eau, l'herbe est verte, les arbres sont pleins de fleurs et de fruits. Nous devons être des arbres plantés près des courants d'eau. Passons rapidement au chapitre suivant et plus précisément au chapitre 45, Ésaïe 45, et ici du verset 8. Verset 8. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction et que les nuages la fassent se déverser. Que la terre s'ouvre pour faire apparaître le salut et qu'elle fasse germer en même temps la justice. Moi, l'Éternel, je l'ai créé moi-même. C'est ici que l'évolution est décrite. C'est Dieu lui-même qui crée cette pluie. Que les bénédictions, que les cieux répandent d'en haut la bénédiction et que les nuages la fassent se déverser. Ensuite vient la chose suivante. Que la terre s'ouvre pour que le salut jaillisse et fleurisse et que la justice apparaisse. Que la terre s'ouvre pour recevoir la pluie de la bénédiction. La terre terrestre, la terre assoiffée doit s'ouvrir. Elle ne peut pas faire autrement. Le ciel est au-dessus de la terre. Et quand il pleut sur cette terre. Et Dieu est au-dessus de son peuple. Il habitera au-dessus d'eux et sera leur Dieu. Et lorsqu'il fait jaillir la bénédiction et donne la pluie, ce n'est pas n'importe où qu'il le fait, mais là où s'ouvre le cœur de son peuple. C'est là qu'il fait descendre sa pluie et sa bénédiction. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction. Nous n'avons pas besoin d'une autre pluie que celle qui vient d'en haut. Car tous les bons dons viennent d'en haut, comme c'est écrit dans Jacques, du Père des Lumières, auprès duquel il n'y a pas d'obscurcissement. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction. Alléluia. Le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert depuis Golgotha. Le ciel est ouvert. Vous savez qu'une fois par an, le grand souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, derrière le rideau, le voile. Et savez-vous que ce vendredi saint, lorsque Christ, notre Seigneur et Rédempteur, est mort, et que le service divin a eu lieu dans le temple, et que le rideau s'est déchiré, bien alors le service religieux a eu lieu dans le temple et que le rideau s'est déchiré de haut en bas, leurs yeux et leur cœur auraient dû s'ouvrir. Ils auraient dû savoir et reconnaître que ce qui se passait là était l'œuvre de Dieu. Mais ils y sont tout de même entrés avec le sang des boucs et des taureaux, alors que le sang de l'agneau coulait là, sur la croix, à Golgotha. Nous n'avons plus besoin, toi, avec ce que tu apportes, et non pas avec ce que j'apporte. Mais nous avons besoin de ce que Dieu nous a donné par grâce. C'est avec ça que nous pouvons entrer dans sa présence. que les cieux répandent d'en haut la bénédiction. Il relie encore le verset 8 d'Ésaïe 45. Et que les nuages la fassent se déverser. Voici une image tout à fait magnifique. Et aussi, dans l'un des deux derniers, des deux dernières prédications de Frère Branham, il est fait référence au prophète de l'Ancien Testament et à Géasi. Et vous savez que le prophète a dit, « Va et regarde, car il va pleuvoir. » Et il revient et dit, « Je ne vois rien. » Et il dit, « Retourne et regarde encore. » Et il revient et dit, « Je ne vois rien. » Frères et sœurs, combien de fois ressemblons-nous à un Géasi et n'accordons non pas foi à la parole prophétique parce que nous avons regardé avec des yeux humains au lieu de faire confiance à Dieu dans notre cœur. Et tout à coup, une nuée s'est élevée, aussi grande que la main d'un homme. Le plus petit nuage peut se répandre très rapidement. Et tout le ciel est recouvert. Et vous savez, c'est là que Frère Branham fait une très belle remarque. Il dit, ce vieux chauve, ce vieux prophète, qui pouvait à peine gravir la montagne, est devenu jeune au moment où Dieu a fait venir la pluie et il pouvait courir plus vite que les chevaux. Que Akab avait fait atteler et fait partir en courant. Que s'est-il passé? Dieu avait fait un miracle. Le prophète est devenu jeune et il s'est enfui. Dieu veut nous renouveler. Dieu veut nous faire revivre. Dieu veut faire se déverser du ciel des fleuves de sa bénédiction et que les nuages les répandent. C'est une chose magnifique. Les nuages distribuent cet océan de manière très régulière. Vous savez, tout ce que la pluie qui tombe sur nous est prise dans l'océan, dans toute son abondance et qu'elle est répartie sur la surface de la terre. C'est exactement ce que fait Dieu. De la plénitude éternelle de son esprit, il répand la pluie de bénédiction, sa pluie de bénédiction sur son peuple, où qu'il soit rassemblé. Que les cieux descendent et répandent, d'en haut la bénédiction. Alléluia. Dieu a promis la bénédiction et personne ne peut la changer. Le seul qui voulait la changer était Balaam, qui s'imaginait être un prophète. Et il avait l'intention de maudire. Non, frères et sœurs, celui qui est né de Dieu est un enfant de bénédiction. Et comme le Seigneur l'a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Dieu nous a bénis et veut continuer à nous bénir pour que nous devenions une bénédiction. Partout où il y a, là où il n'y a pas de bénédiction, là il y a la malédiction. Ce n'est pas là que se trouve Dieu. Là où il y a Dieu, il y a l'amour, la joie, la paix dans le Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu établit son royaume dans ton cœur et dans mon cœur. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction. Oui, qui peut empêcher Dieu de faire couler, de répandre sa bénédiction ce soir? Mais la condition est la suivante. Terre, ouvre-toi. Cœur, ouvre-toi. ouvre-toi et dis, Seigneur, seulement des vases, saint maître, mais des vases remplis de ta puissance. Et que les nuages la fassent se déverser, que la terre s'ouvre pour faire apparaître le salut et qu'elle fasse germer en même temps la justice. Moi, l'Éternel, je l'ai créé moi-même. C'est ainsi que Dieu l'a créé dans les choses naturelles. Un homme l'est-il à faire tomber la pluie sur la terre? Est-il Dieu? Non. Non. Dieu laisse cela se faire lui-même sous sa grande tutelle. Et c'est ce que frère Branham dit aussi une fois, que Dieu peut puiser toute la pluie et toute l'eau sans qu'on l'entende dans l'océan et les répandre en masse sur la terre. Et il dit, si nous ouvrons le robinet et laissons couler un peu d'eau, on entend déjà un certain bruit. Et Dieu fait tout d'une manière si grande, si majestueuse, sans que nous l'entendions, sans que nous le remarquions. Mais je veux vous dire une chose. Si Dieu fait cela pour vous et pour moi, en toi et en moi, alors ça, nous l'entendrons, nous le verrons, nous le remarquerons et nous en ferons l'expérience personnellement. Et c'est bien ce qu'il c'est bien de cela qu'il s'agit, que la terre s'ouvre pour que fleurisse le salut. Sans la pluie, même la meilleure semence dans le meilleur sol ne donnera rien. Nous savons en effet qu'à l'époque où il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, il y a eu une terrible sécheresse. Et si nous considérons la situation d'un point de vue spirituel, quand il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. Et vous savez tous très bien, même si vous n'êtes pas agriculteur, à quel point c'est terrible quand le sol est complètement sec, quand il est desséché et que des silons le traversent de partout. Il est presque impossible de le travailler. Comme c'est beau, par contre, une terre végétale qui a été humidifiée et qui se laisse bien travailler. Ah, on voit alors la semence et on ne se fait plus de soucis. Elle est semée, on sait qu'ici la semence semée va lever et prospérer. Mais celui qui vit dans une région aride et qui a des champs à cultiver sait ce que cela signifie. Quand sera-t-il alors des prédicateurs de l'Évangile qui portent la précieuse et noble semence de la parole de Dieu pour la semer? Si la terre est très desséchée, si elle est desséchée, à quoi sert la meilleure semence? Oh, que Dieu atteigne encore une fois mon cœur et le tien, qu'il l'adoucisse encore une fois, qu'il ouvre ensuite le ciel où il est ouvert. Oui, nous savons que le ciel est ouvert. Oui, il est ouvert. Qu'il ouvre nos cœurs pour faire descendre, pour faire déverser cette bénédiction de manière puissante dans nos cœurs. Il y a longtemps que Dieu a aussi parlé par le prophète de ce que nous venons de considérer. Et cela est oui et amen. Et dans les derniers jours, il a réalisé en son Fils ce qu'il avait dit par les prophètes. Jésus-Christ n'est pas un autre discours, mais la réalisation de tout ce que Dieu a dit par la bouche des prophètes. Il est lui-même la parole faite chair. Et là aussi, frère Branham le dit si bien, Jésus-Christ n'a pas écrit un seul verset, ni un seul chapitre. Pour quelle raison? Il était lui-même la parole faite chair. En lui, tout ce qui était écrit est venu à son accomplissement. C'est accompli, frères et sœurs. Que nous écrivions beaucoup, peu ou pas du tout, que la parole du Dieu Tout-Puissant soit écrite dans ton cœur et qu'elle soit rendue vivante par son esprit. J'ai confiance en Dieu. Lorsqu'il dit, comme je répands l'eau sur la terre assoiffée, desséchée et des torrents d'eau sur le sol aride, ainsi je répandrai mon esprit sur mes rejetons et ma bénédiction sur mon peuple. Alors c'est Dieu qui l'a dit, qui l'a prononcé, et nous le croyons de tout notre cœur. Et si nous y croyons vraiment, comme l'Écriture l'a dit, alors des fleuves d'eau vive couleront. Peux-tu croire ce soir? Est-ce que je peux croire ce soir, comme le dit les Écritures? Pouvons-nous nous unir dans la foi comme un seul cœur et une seule âme devant la face de Dieu et dire, Seigneur, nous avons entendu ce soir ta parole qui est sortie de ta sainte bouche. Et savez-vous que s'il n'y avait pas de preuve de l'authenticité de la parole de Dieu pour les non-croyants, mais Dieu a aussi veillé à ce que dans les rouleaux trouvés à la mer morte, on trouve le prophète Ésaïe et ses 66 chapitres. Et nous avons rendu visite lors du voyage en Israël à ce rouleau. Et l'un des sites les plus précieux qu'il y ait à Jérusalem, c'est ce site où sont conservés ces rouleaux du prophète Ésaïe. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres vers qui ne peuvent pas être traversés par une balle. Mais c'est là que se trouve le prophète Ésaïe, avec ses 66 chapitres, mot par mot, comme nous l'avons ici dans cette Bible, comme une preuve de Dieu que les Juifs doivent simplement dire, oui, nous ne pouvons que croire. Mais la couverture pèse encore, n'est-ce pas, sur leur cœur. Le voile pèse encore sur leur cœur. Dieu nous l'a enlevé en Christ. Et lorsque Paul dit que cette couverture, ce voile n'est enlevé qu'en Christ, nous pensons à Apocalypse 1, verset 1, révélation, dévoilement de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ. Beaucoup de gens croient en Christ. Mais à qui la couverture de Christ est-elle enlevée? Qui l'a vu comme celui qui a fait le ciel et la terre? Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et à qui Dieu a-t-il pu témoigner de lui-même? Nous avons ici une parole que Dieu a prononcée autrefois par l'intermédiaire d'un de ses prophètes. Dans ces derniers jours, il résume et réalise tout ce qu'il a dit lui-même par les prophètes. Dieu a parlé à la fin des temps dans son Fils. Il n'a pas seulement parlé de la rédemption, il est le Rédempteur. Il ne s'agissait plus de continuer à parler en montrant l'avenir avec espoir. Il s'agissait d'une parole de Dieu accomplie dans une parole d'un discours achevé de Dieu dans lequel la parole s'est faite chair, s'est faite chair. Frères et sœurs, ce soir nous avons affaire au Seigneur et à sa parole. Pouvons-nous croire de tout notre cœur? Et je me demande, avons-nous été prêchés morts ou avons-nous été prêchés vivants? Vivants. Qu'est-ce qui nous arrive? Dieu peut-il encore nous bénir? Aucun désir profond pourrait naître dans nos cœurs et que nous dirions, Seigneur, ce que nous avons entendu ce soir, nous aimerions l'emporter chez nous, en faire l'expérience personnelle et l'emporter soi-même à la maison. Et pas seulement comme une promesse. Non, nous l'avons souvent ramené à la maison, n'est-ce pas? Pas seulement une parole dans la mémoire ou même dans le cœur, mais une nouvelle expérience personnelle avec Dieu. Le fait d'être rempli soi-même réellement du Saint-Esprit, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Que les cieux s'ouvrent, ou que les cieux s'ouvrent, et que la terre s'ouvre, et que la bénédiction de Dieu descende en abondance. Pouvons-nous croire aujourd'hui? Je demande à nouveau, peux-tu croire ce soir? Comme l'a dit l'Écriture, alors ce soir, au moment où tu crois, des fleuves d'eau vive couleront. Alors Dieu déversera son esprit. Alléluia. Pouvons-nous y croire de tout notre cœur? Chacun d'entre nous, alors nous nous unirions dans la prière. Mais il ne doit y avoir personne qui freine, personne qui arrête. Chacun doit s'y mettre et être saisi par Dieu lui-même. Nous aspirons à cela. Les 120 sont restés dans la prière jusqu'à ce qu'ils l'aient reçu. Nous aussi, nous devons rester en prière jusqu'à ce que nous ayons reçu la grâce de Dieu. Loué soit son nom merveilleux et saint. Je crois que cette parole est une promesse pour toi et pour moi. Toi et moi sommes choisis par Dieu, élus par Dieu, déterminés, prédestinés, déterminés à contempler sa gloire. Et par conséquent, sous cette base, ordonné à recevoir cette bénédiction des premiers-nés, cette promesse divine, et pas seulement à en entendre parler. Oh, que nous pourrions croire que nous contemplons la gloire de Dieu. Alléluia, gloire et honneur. N'hésitez pas à dire Alléluia. Cela ne fait pas de mal à personne. Cela ne fait de mal à personne. Et cela réjouit notre Dieu. Avez-vous approuvé intérieurement cette parole? Avez-vous pu dire plusieurs fois Amen? Avez-vous dit plusieurs fois dans votre cœur, mon Dieu, aujourd'hui, je veux aussi l'expérimenter personnellement? Avez-vous dit sous la programmation, mon Dieu, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as parlé? Avez-vous dit aujourd'hui, tu me parles? Tu m'interpelles aujourd'hui? Je le recevrai, à moins que nous l'entendions, afin que nous n'entendions la parole de Dieu comme si c'était la première et la dernière fois, comme si c'était la seule chance que nous ayons sur terre encore de nouveau de pouvoir écouter la parole de Dieu. Sinon, nous entendrons et nous partirons sans rien vivre, sans rien expérimenter, et nous penserons à la prochaine réunion. Mais lorsque le Seigneur passe devant nous et que nous l'entendons parler, nous devons ouvrir notre cœur et saisir l'occasion et dire, Seigneur, me voici, prends-moi, toi, aujourd'hui, je l'ai vu, aujourd'hui, je peux l'accepter dans la foi. Aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts. Aujourd'hui, tu as ouvert mon cœur. Et quand vous dites cela dans la foi, cela se produit, même si ce n'était pas encore le cas auparavant. Vous pouvez dire, oui, frère Franck, n'est-ce pas se tromper soi-même? Non. Dieu n'a jamais trompé personne. Et si tu te fais une promesse à toi-même, elle te trompera aussi elle-même. Et tu te tromperas à toi-même. Mais si Dieu a fait une promesse dans sa parole, je veux voir alors à la personne que Dieu est déçu. On ne la trouvera pas sur terre. Nul n'est confus. S'il persévère en Dieu, s'il met sa confiance en Dieu, serais-je le premier à être confondu? Non, c'est impossible. Oh, fidèle refuge, le ciel tombera avant que ta parole ne me trompe. Ça, c'est sa parole. Alléluia. As-tu dans ton cœur une adhésion à sa parole? Un oui à ta parole? Alors, l'esprit qui a inspiré la parole lui-même viendra sur toi parce que tu acceptes, tu reçois dans ton cœur la parole inspirée par le Saint-Esprit et te donnera alors il t'accordera l'expérience rapportée dans cette parole inspirée par lui que tu as reçue dans ton cœur. Loué soit le nom du Seigneur. Ce soir, cela ne dépendra pas de Dieu ni de la prédication. Ce soir, cela dépendra de toi et de toi seul et de moi seul. Si nous recevons ce que Dieu a promis ce soir sous le coup de la parole, pendant qu'il nous parle. Mais la foi, comme le dit frère Branham, a des muscles. Elle s'élève dans l'esprit. Et je crois que la parole de Dieu ne met personne à terre. La parole de Dieu relève ceux qui sont abattus. Alléluia. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Vous savez, quand j'ai vu et entendu jeudi soir des gens se lancer dans quelque chose sans aucune raison, oh, j'ai pensé en moi-même, que devons-nous à notre Dieu, que devons-nous à notre Dieu qui nous a parlé de manière si merveilleuse en ces derniers jours, quand on voit des gens se lancer dans des choses qui n'ont aucun sens et aucune valeur. Nous à qui Dieu a parlé, et qu'est-ce que nous devrions faire? Et cela en son Fils et par son Fils, il nous a parlé. Car Jésus-Christ marche au milieu des sept angles d'or. Il a adressé lui-même son message à son peuple par l'intermédiaire de chaque messager dans chaque âge. Et nous avons reçu le temps le plus glorieux, le message le plus précieux à la fin du temps de la grâce. Et nous l'avons reçu de Dieu. C'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et rendons-lui gloire. Regarde loin de toi-même et regarde au Seigneur. Car il est écrit, levez les yeux vers moi, extrémité de la terre. Et nous levons les yeux vers l'Éternel, notre Dieu, qui est digne d'accepter la louange, de recevoir la louange, la gloire et l'adoration. Ouvrons-nous ce soir comme jamais auparavant. Vous pouvez dire, oh frère Franck, j'ai peur que ce soit moi qui fasse cela, j'ai peur que cela vienne de moi-même. Moi, je n'ai pas peur du tout. Je n'ai que ma propre bouche à ouvrir. Je n'ai que ma propre langue à mettre à la disposition de Dieu. La chaise devant toi ne parlera pas pour toi et n'ouvrira pas sa bouche pour toi. N'aie pas peur. Dieu lui-même te dit d'ouvrir ta bouche. Dieu est présent pour confirmer sa parole et raviver l'esprit des découragés pour relever et pour bénir. Ne crains pas de faire quelque chose de personnel, alors que c'est Dieu qui te le dit de le faire. Paul dit, je prierai par l'esprit et je prierai par mon intelligence. Oui, commence donc par l'intelligence, Et là où vous vous en, et là où tu t'arrêtes, continue par l'esprit. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur. Nous ne pouvons pas faire autrement que de croire au plein évangile. Et là où se trouve le plein évangile, là se trouve le plein salut. Et cela en abondance. Notre Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. En pleine suffisance. Ce n'est pas des mots, c'est une réalité qui doit devenir réalité dans ta vie et dans la mienne. Loué et exalté soit le nom du Seigneur d'éternité en éternité. Amen.